Causerie en air.
Causerie en air. Causerie en air.
Causerie en air.
Causerie en air.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs. On est ravis de vous retrouver et de se retrouver, nous aussi, pour cette première émission de l'année 2024. Alors, eh ben, on va en profiter donc pour tous vous souhaiter ensemble une
bonne année.
Alors, eh bien, on lance le programme. Eh bien, qui dit bonne année dit, souvent on dit bonne année, bonne santé. Alors ça tombe bien parce que notre invitée du jour est Séverine, infirmière psy au CMP adulte, avec qui on va pouvoir échanger, voire même apprendre, autour de la santé mentale. Georges va nous faire partager son point de vue sur les bonnes résolutions avec un petit débat autour du sujet. Séverine et Solène nous ont concocté une pépite sur le thème du langage des enfants. Je ne vous en dis pas plus, mais on accueille avec joie ce nouveau duo de causeurs. Après, on va tous échanger autour d'une expérience vécue sur un descriptif d'annonce traduit sur Internet. On va essayer de le faire avec humour, parce qu'au niveau de la langue française, il y a de quoi pleurer. Et on finira avec Taous et sa rubrique intitulée « Le jardin cuisine ». J'ai bien mis l'accent ? Voilà, ça m'avait dit l'accent.
Parfait.
Donc, ça sent la petite recette avec un jeu, tout ça. Et n'oublions pas, eh ben, nos petites pauses musicales, soigneusement sélectionnées. Allez, let's go, c'est parti. La virgule.
C'est quoi déjà ?
Causerie on air.
Ça y est, la virgule est passée.
Ah oui, oui. On va y arriver. Alors, eh ben, on attaque avec l'invité du jour. Donc, bonjour Séverine.
Bonjour.
Et un grand merci d'avoir accepté spontanément notre invitation, une fois qu'elle a été validée par la hiérarchie. Et on a attendu un petit peu quand même, hein, on a attendu jusqu'à hier soir.
Ouais.
Donc, pour une première, eh ben, le fait d'accepter comme ça, spontanément, et d'attendre la veille au soir, eh ben merci beaucoup.
Merci de votre patience et de votre accueil.
Voilà, on va être tout simple. La première question que je vais te poser, eh ben, présente-toi tout simplement.
Alors moi, je m'appelle Séverine, donc je suis infirmière depuis 17 ans. Mon parcours, j'ai fait 3 ans en maison de retraite, et puis après, lors de mes stages, j'avais un stage en psychiatrie qui m'avait bien plu. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir. Et puis, bah, j'y suis restée. Après un parcours en intra-hospitalier, pendant 10-11 ans, et bah, je suis partie, du coup, explorer d'autres aspects de la psychiatrie qui se rapprochent plus autour de la santé mentale, donc de un peu monsieur et madame tout le monde qu'on peut croiser, qui ont des difficultés. Et du coup, bah, voilà, c'est une autre aventure. Voilà, et puis, je suis maman de 2 enfants et habitant en Mayenne depuis toujours.
Petite question rapidement, tu parles de parcours intra-hospitalier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas dans différents services du monde hospitalier ?
Non, intra-hospitalier, non. C'était surtout les hospitalisations.
D'accord.
Sur Laval, on a une unité d'hospitalisation de court séjour, donc les gens qui arrivent en crise. Et après, il y a un autre service ou soins de suite pour des gens qui ont besoin de soins sur la durée.
D'accord.
Donc, intra-hospitalier, c'est vraiment sur les services d'entrée et d'hospitalisation complète.
D'accord.
Donc là, le CMP fait partie de l'extra-hospitalier.
D'accord.
Parce qu'on n'a pas un service continu 24 heures sur 24.
Oui, vous accueillez pas le public, la patientèle tout le temps, quoi.
Non, okay. C'est ça.
Ça marche.
On peut voir justement la parler du CMP. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un CMP et à quoi ça sert ?
Alors CMP, ça signifie déjà Centre Médico-Psychologique. Donc c'est un service, une unité d'accueil et de coordination. En fait, on accueille toutes les personnes qui en font la demande. Il n'y a pas de... n'y a pas de critères d'exclusion, hormis l'âge. Nous, on accueille qu'à partir de 16 ans. Donc, une fois qu'on a 16 ans, voilà, on peut bénéficier d'un suivi. Et l'idée, c'est d'essayer d'évaluer les personnes, s'il y a besoin de soins urgemment ou si juste un accompagnement d'écoute peut suffire. Donc, on s'adapte vraiment à tout type de patients et de personnes qui arrivent ici. Voilà,
c'est tout
voilà.
Ça.
C'est rapide.
Quelles sont les priorités lors d'une prise en charge ?
Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. L'idée, c'est déjà quand on accueille la première fois la personne, c'est de l'évaluer et de voir s'il y a si elle est à risque pour elle ou pour les autres. Donc c'est ça, déjà de savoir comment elle se sent et est-ce qu'il y a un besoin urgent d'un avis médical. Donc auquel cas, bah, on s'adapte, on essaye de trouver des solutions. Donc c'est surtout l'urgence vitale, entre guillemets, de la santé psychique de la personne. Est-ce qu'elle est en danger ou pas pour elle ? Et après, si déjà cette chose-là est exclue, bah après on s'attelle à l'accompagner au mieux avec sa demande, parce que aussi avec la demande de la personne, parce que nous on peut voir des choses, mais c'est pas pour autant qu'elle en a conscience. D'accord. Ou qu'elle en souffre.
Ouais. Donc c'est vraiment la personne vient vous voir parce qu'il y a un mal-être, un malaise psychologique, et après
c'est d'évaluer, de voir si vraiment elle a besoin de soins en urgence ou pas, et si c'est pas de l'urgence, bah, qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Est-ce que c'est un médecin psychiatre dans quelques temps ? Est-ce que c'est un médecin traitant ? Ou est-ce qu'il n'y a juste pas besoin de traitement et on l'accompagne avec ses capacités et avec ce que nous on peut lui apporter ou pas ?
Et avez-vous un délai de suivi ?
Alors, les premiers rendez-vous au CMP avec un infirmier, alors en fonction des périodes, on va dire ça fait entre 15 jours et 3 semaines entre le moment où la personne appelle. Après, donc nous les infirmiers, c'est assez facile parce qu'on est plus nombreux que les autres collègues. S'il y a besoin d'une prise en charge psychologue, bah là ça va demander plus, il y a une liste d'attente parce qu'elles sont moins nombreuses, donc ça peut demander plus de temps. Et médecin psychiatre, alors là, malheureusement, on n'en a plus qu'un. Donc là, ça peut demander
beaucoup
de mois, malheureusement.
Ok. Là, on parle de professionnels, donc de psychologues, on parle de psychiatres. C'est quoi la différence entre une personne qui est psychologue, un professionnel psychologue, et un psychiatre ? C'est quoi leur différence ?
Alors, le psychiatre, on va commencer par lui, c'est peut-être... c'est un médecin. Donc, il a fait une formation médicale, il a passé une spécialité psychiatre, et lui, il va s'atteler à chercher les symptômes qui potentiellement évoquent une maladie et à mettre un diagnostic ou des hypothèses de diagnostic, parce qu'en psychiatrie, on ne peut pas être sûr en une seule consultation des troubles de la personne. Mais c'est ça, s'atteler à voir quels sont les symptômes et ce qui a nécessité de poser un médicament. Donc lui, c'est vraiment plus ça, diagnostic, médicament. Le psychologue, il n'a pas fait médecine, il a une formation de psychologue. Donc lui, il va plutôt s'attacher à accompagner la personne avec... dans son bagage, il n'a pas les médicaments, lui. Donc, c'est comment par les thérapies, comment par différents exercices, par certaines pratiques, comment il peut aider la personne à aller mieux et à opérer. Enfin, que ça vienne de la personne, que les changements s'opèrent, en fait, pour aller mieux.
D'accord.
C'est pas le psychologue qui a la baguette magique. Il donne des outils un petit peu et la personne s'en saisit pour... essayer d'aller mieux.
D'accord.
Pour les personnes justement qui ne peuvent pas se déplacer, vous faites comment ? Est-ce que vous pouvez vous déplacer ou est-ce qu'il faut qu'elles appellent une ambulance pour venir ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place ?
Alors, quand elles ne sont jamais venues ou...
Ah ben les deux cas, allez. Une qui n'est jamais venue et après l'habituée.
Alors, les personnes qui ne sont jamais venues, ça c'est plus compliqué. Alors après, il y a des services qui sont pas de l'hôpital ou qui sont plutôt au niveau de d'autres qui s'appellent l'équipe mobile de soins psychiatrie. Donc eux, ils peuvent se déplacer au domicile des personnes. Ou au niveau de la Val Aglo aussi, il y a des services un peu plus spécialisés qui vont au devant des personnes qui sont en situation de précarité, soit parce qu'ils ont, ils ont trop de troubles et là c'est compliqué, soit parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc il y a ces équipes-là. Après, on est limité, parce que nous on intervient surtout au domicile des patients. Quand il y a eu un avis médical qui dit que la personne, elle a besoin qu'on aille la voir. Donc en effet, il y en a certains où nous, on se déplace, on va chez eux parce que ils sont trop mal, trop angoissés ou des problèmes de transport. Donc c'est nous qui y allons. Mais dans une première attention, on n'ira pas chez eux. Ça ne relève pas du CMP. C'est d'autres services
D'accord.
À côté. Okay. Hein.
Donc si une personne appelle, le CMP, elle est orientée.
Si on voit qu'il y a besoin, on peut réorienter soit, je vous disais, soit les services de la Val Aglo, qui ont un peu un service là-dessus. Il y a d'autres structures qui peuvent aussi se déplacer, plus pour les jeunes. Un service qui s'appelle l'appui, par exemple. Eux, ils peuvent aller chez les jeunes, toujours avec leur accord, bien sûr, mais c'est vrai que nous, c'est pas notre première intention. Mais on essaye de relayer quand il y a un besoin. Voilà, on est aussi un service qui, c'est ce que je vous disais, de coordination. Donc si nous, on peut pas, ça fait pas partie de nos missions, mais qu'on voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a du besoin, voilà, c'est comment trouver autre chose pour ramener la personne aux soins.
Quel territoire couvre le CMP en Mayenne? Parce que du coup, vous êtes rattaché au centre hospitalier de Laval. Donc j'imagine que déjà tout Laval Aglo rentre dans la couverture, on va dire, du CMP. Est-ce qu'il y a d'autres territoires? Est-ce que vous allez un peu plus loin que ça?
Alors ça, c'est défini, la sectorisation des CMP, elle a été définie dans les années 90. Donc en fait, d'accord, en fonction d'où on habite en France, on dépend d'un CMP. Ah. Et en effet, en Mayenne, ça marche comme ça. Donc tout le sud Mayenne, ça va être Château-Gontier. Tout le nord Mayenne, c'est Mayenne, avec je crois qu'il y a une antenne à Vilaine. Et du coup, nous, sur Laval, en tout cas notre secteur, c'est Laval-Est, Laval-Ouest.
D'accord.
Donc en fonction d'où on habite, on dépend de l'un ou de l'autre. Et il y a une petite antenne aussi à Évron, parce que le secteur Laval-Est est très grand. Et donc ils ont ouvert une antenne là-bas. Mais quand on ne sait pas, on appelle un CMP. Et on vous demande de toute manière la commune où vous habitez. Et si ce n'est pas notre secteur, on donne le numéro de l'autre secteur.
Et renvoie vers l'autre secteur, tout simplement.
Ça.
Ok.
Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, je propose qu'on écoute Georges, qu'on se retrouve plus tard pour la suite de l'interview. Et qu'on retrouve Georges avec sa petite chronique, les bonnes résolutions.
Alors, moi, je veux parler des bonnes résolutions que nous prenons chaque année. Donc, chaque début d'année, beaucoup d'entre nous prennent des résolutions. Faire du sport, manger sainement, changer de look, voyager, etc., etc. Cependant, certaines de nos résolutions, à peine vues le jour, s'évanouissent par manque de volonté et de moyens financiers et ne voient jamais le jour. Alors, il faut prendre des résolutions à portée de notre bourse. Avant de prendre d'autres résolutions, les questions à se poser. Ai-je mis en pratique mes résolutions précédentes? Car nous risquons de répéter les mêmes résolutions. Quelquefois, nous avions oublié quelles étaient nos résolutions pour l'année. Alors, pour se souvenir, pensez à les écrire et les mettre dans votre table de chevet. Et chaque matin, jetez un coup d'œil, histoire de ne pas oublier, pour vous donner le self-motive et qu'elle ne reste pas aux oubliettes.
Si avec ça, on n'arrive pas à tenir une bonne résolution,
limite,
on se fera accuser de mettre de la mauvaise volonté.
Limite, vraiment. D'ailleurs, tiens, autour de la table, là, bonne résolution,
alors,
mauvaise résolution.
Comment ça commence cette année ? Cécilia, t'as pris une résolution cette année ?
Eh ben, ma résolution, bah, c'est effectivement de continuer. Ça fait 2-3 ans à peu près que j'ai la même résolution. Eh ben, je la continue et c'est déjà pas mal.
Donc, de continuer ta résolution.
C'est juste ce que je disais.
Exactement.
Tu répètes les mêmes résolutions, au final, elles n'aboutissent jamais.
Je l'ai. Ah, je suis perfectionniste. Donc, je les finale. Je suis dans la finition de la bonne résolution.
Oh, nous, 3 ans. Alors là, elle va prendre du temps pour éclore.
Exactement, la perfection.
Alors, et vous, mesdames ?
Moi, en fait, j'en ai pas parce que, en fait, j'y arrive jamais à les tenir. Donc,
idem.
Et ta housse, as-tu ?
Non plus, aucune.
Ah, voilà.
Mais juste par contre, moi, je les aurais pas mis dans la table de chevet. Ouais. Je les aurais accrochés sur le frigo pour bien les voir tous les jours.
Ah ouais, ouais. Moi j'ai pensé au portefeuille. Tu mets ça dans ton portefeuille. T'es souvent amené à l'ouvrir, donc elles sont là.
Ouais, mais
prêtes.
Si tu l'ouvres et puis tu, au final, tu n'en t'occupes pas, tu l'ouvres et tu regardes et c'est comme un papier.
Oui,
la
c'est
table
vrai.
De chevet, tu te réveilles le matin. C'est comme une petite habitude. Tu ouvres ta table de chevet, tiens. Tu la regardes peut-être aujourd'hui. Ah oui, il faut que je réussisse. Aujourd'hui, je vais réussir.
Mais dans
si
ce cas-là,
ça se trouve.
J'ai une question pour toi. Si on n'a pas de table de chevet, comment on fait?
On la met sur, son oreiller. on la met dans un truc, sur son oreiller, on se réveille. Tiens. Ah oui, mais t'es là? Ben oui, il faut que je dis que je te fasse. Il faut trouver un moyen, donc...
Toi, alors Georges, bonne résolution cette année.
Ah, mes bonnes résolutions, c'est pourquoi j'en avais dit. J'avais commencé très bien, au final, oui. Je me dis que c'est le hasard des choses qui fait qu'effectivement, je fais attention. C'est le hasard des choses, en fait, qui m'est imposé, des bonnes résolutions. Maigrir, pas manger du sucre, donc c'est le hasard des choses, je n'ai pas trop envie de parler. Donc du coup... Je disais, regarde, il faut vraiment que je perde du poids, mais bon.
T'as pas mangé une part de galette frangipane cet après-midi?
Tu vois, c'est aujourd'hui, je me suis permise.
Ah oui, un petit plaisir de temps en temps.
Un petit plaisir.
Ouais, mais c'est bien, il faut savoir céder à la
tentation. Le mental en a besoin du sucre.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, ça fait du bien.
Tiens, toi,
c'était quoi ta bonne résolution?
Mon Dieu, maigrir aussi, mais on verra ça l'année prochaine.
Aux oubliettes.
Et Georges, moi, si je dis pas de bêtises, il me semble que t'avais fait une chronique l'année dernière, du coup, sur les bonnes résolutions, où tu nous avais cité tes bonnes résolutions. Est-ce que t'as
lecture.
Réussi à tenir les bonnes résolutions que t'avais
lecture.
L'année passée?
Lecture.
La lecture,
effectivement.
Ouais.
Oui, lecture.
Oui, mais j'ai pas terminé, mais j'ai commencé. Donc c'est déjà ça.
Oui. Ouais. Oui, oui. Bah, comme tu disais, sur la durée, un peu comme Cécilia, quoi. Ouais. T'as commencé un truc, tu persévères c'est et tu ça. Continues.
Et on rajoute des petits défis en plus. Ouais.
Bah oui, c'est marrant. Toi, David, bonne résolution cette année ?
Oui, bah c'est une bonne question. Souvent, ce que je me dis, c'est que ma résolution, c'est de ne pas en prendre. Comme ça, je suis sûr de la tenir. Après, non, c'est en fonction de l'année qui se déroule et des
être
obstacles
à l'heure, David,
qui se mettent devant moi,
dit.
De surmonter les obstacles de la vie.
Bah moi, c'est de rester toujours souriant. Et comme je fais jamais la gueule, et ben ça va, c'est facile
voilà.
à faire.
C'est chouette.
Tout simplement.
Eh ben c'est fort sympathique ce petit tour de table. Ben c'est le moment maintenant de la chronique de Séverine et Solène. Ouh on l'attend. Elles nous ont mis l'eau à l'oreille. Non, pas l'eau à la bouche. Donc, eh bien, allez les filles, c'est à vous.
Chers auditeurs, nous nous sommes dit que vous aimeriez bien savoir ce qui se passe réellement pour bébé lorsqu'il acquiert le langage. Alors, on s'est dit que nous allions vous raconter une histoire. Il était une fois, ou plutôt un son, qui pointa sa note dans mon oreille. Des petits sons blancs qui venaient s'entremêler au battement du cœur de ma maman. Cela fait 4 mois que je suis dans le ventre de maman et je commence à entendre sa voix, sa mélodie, sa rythmique. Un jour, elle m'a présenté la voix de papa. Grâce à mes oreilles, je perçois de nouvelles sonorités que je ne sais pas encore identifier. Je suis comme dans un bain, imprégnée de vibrations colorées et sonores. J'entends les émotions de papa et maman.
Ah,
Me voilà. Désormais, les sons ne sont plus filtrés. Et là, le monde du son s'offre à moi. Waouh ! J'adore écouter papa et maman lorsqu'ils me parlent. Papa, maman, n'ayez pas peur de me parler dans notre langue familiale.
Coucou mon bébé.
Ya Omri.
Buenas noches, chiquitín.
Hachetatkem Kourin. Ibni Omri. Habibi Sari.
Hasta mañana, hijo mío. Te quiero mucho.
Après quelques mois de vie, je me lance. Vous m'entendez ? J'ai maintenant 3 mois et j'ai déjà envie d'échanger avec vous. Je fais de belles vocalises. Papa, maman, lorsque vous me parlez, je peux réagir à votre voix et à vos intonations. La moitié d'une année passe et déjà je comprends des mots familiers. Je réagis à mon prénom et à la musique. Mes parents m'entendent rire aux éclats pour leur plus grand bonheur. Une année de terrien passe et je sais enfin faire du bruit avec mes lèvres. Grâce à mes talents d'imitateur, je reproduis les mimiques de papa et maman. Et lorsque je veux quelque chose, je le montre avec mon doigt. À 15 mois, j'ai ma propre langue. Papa et maman ne peuvent pas me comprendre. Malgré tout, je dis 2-3 mots, ce qui rend papa et maman très fiers de moi. J'adore regarder des imagiers et imiter des cris d'animaux. En allant sur mes 2 ans, je vais m'exprimer encore plus. Et le « non » va arriver. Je vais vous poser plein de questions. Et grâce aux histoires, mon cerveau va enregistrer beaucoup de mots dont je pourrais me servir.
J'ai trois ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 3 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 3 ans. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai 3 ans. Ça paraît bizarre, mais...
Vous l'avez dans la tête ? C'est cadeau. Allez, sérieusement, j'ai 3 ans et je m'affirme en tant qu'individu. J'utilise le « je » et je construis des phrases avec plein de mots. Il faut dire que depuis que j'ai commencé à parler, j'ai multiplié par 100 le nombre de mots que je connais. Et tout ça en moins de 2 ans. Voilà! C'était la chronique santé de Séverine et Solène. Merci d'avoir écouté.
Bravo.
Bravo.
Bravo, bravo.
Bon. Franchement,
on avait dit une pépite. Hein.
Une pépite.
C'est une pépite. Alors.
Je suis impressionné par, ouais. Le développement en 3 ans d'un bébé. Quoi. Je veux dire, tout ce qui se passe, on ne s'imagine pas en fait.
Non. Ah, il travaille.
Il travaille.
Ça va vite.
Mais comment ça se fait que vous connaissez toutes ces choses-là sur les enfants ?
C'est une bonne question, ça, David.
Eh bien, par notre travail, nos observations sur le terrain.
Et je crois qu'on va vous retrouver dans les prochaines émissions de Causerie On Air, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Oui, on a encore plein d'idées qui vont arriver avec Séverine, là. Donc, on est en train de vous préparer quelque chose de sympa. Oui. Il me taquine à côté, non mais... Et donc, voilà, on est en train d'écrire, là. On est en train de faire ça. Et j'ajouterais aussi, comment on sait ça ? On a aussi des formations qui nous aident quand même. Et ça, c'est important aussi, qu'on soit infirmière ou infirmière puéricultrice. Ça nous donne des billes quand même pour pouvoir répondre aux parents et... toujours important d'avoir quelqu'un sur eux, moi qui peut nous écouter. Ouais. Voilà.
Eh ben super.
C'était bien, ouais. C'était super.
C'était super, magnifique. Ouais.
Franchement.
Hâte d'écouter votre...
à venir.
Voilà,
les choses à venir.
Votre prochain projet. Eh bien, on va faire une petite coupure musicale avec Grand Corps Malade, Retiens les rêves, et après on retrouve Séverine.
J'ai rêvé. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement. Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. On retient les rêves si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. C'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé vos yeux endormis sereins autour de la table du petit-déj. J'ai aimé. Il y avait l'odeur du grille-pain et vous me racontiez vos rêves. De drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège. J'ai rêvé. C'était l'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies. J'ai regardé. C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis. J'ai aimé. Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Retiens les rêves, si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves, si on voulait? Ils apprennent à lire, nous on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte si c'est pour être papa. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait?
C'est quoi déjà?
Causerie on air.
Allez, de retour sur Causerie on air. On va reprendre l'interview donc de Séverine du CMP. Eh bien, pour lancer le truc, j'avais fait un petit tour de table et interrogé des personnes aussi avec une question toute simple. C'était, quand on vous dit psychiatrie, quelle est la première pensée ou le premier mot qui vous vient à l'esprit? Et j'ai eu des réponses super variées. On est passé de HP, vol au-dessus d'un nid de coucou, fou, serial killer, méfiance, camisole, soin, dépressif, problème psychologique dans sa tête. Alors moi, j'aimerais bien savoir, en tant que professionnel de la santé, quel est le premier mot ou la première idée qui vient à l'esprit quand on dit psychiatrie?
Bah, j'ai eu les mots avant et celui qui a fait écho chez moi, c'est soins. En fait, ouais. C'est plus celui-là. Ouais. Oui, on accueille tout type de population, ça, voilà, tout type de pathologie. C'est très très varié. Hein. On va de la personne, oui, qui est schizophrène, et à la personne qui est juste mal dans sa peau parce qu'un décès pas longtemps avant, parce qu'un divorce, parce que voilà, des difficultés dans sa vie perso ou au travail. Donc bah, c'est tout ça en fait. Bon, après, camisole, non. Non, pas au CMP. On doit...
Mais justement, ça rebondit sur une question. On disait, mais c'est quoi ou comment définis-tu la psychiatrie du 21e siècle? Et j'y ai pensé aussi, schizophrène, camisole. J'ai dit, bah, maintenant, au 21e siècle, on n'y est plus, là, c'est bon.
Bah, malheureusement, en intra-hospitalier, bah, voilà, y a encore parfois besoin de recours à la contention. Après, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'on essaye de diminuer au maximum. Mais c'est vrai que pour l'instant, y a des limites qu'on n'arrive pas à dépasser hein, quand les personnes sont trop agitées, trop mal, ou qu'elles risquent de se faire du mal elles-mêmes ou les autres. Bah, on a parfois recours à ça, mais c'est la dernière intention. Avant, ça veut dire qu'on a essayé toute une panoplie de choses avant, que ce soit du traitement, de la présence... un accompagnement, enfin voilà, c'est vraiment le dernier recours. Mais malheureusement, il y en a encore. Ouais.
Est-ce que tu dirais qu'il y a une évolution un peu de la perception de ce que sont les problèmes psychologiques et psychiatriques de la part du public, parce que bah voilà, tout ce qui renvoie, enfin tous les mots que tu as cités avant, Cécilia, c'est vrai que ce sont des choses quand même assez assez dures.
Ah bah les personnes ont
oui
quand on
Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Bah moi, j'ai envie de croire que ça peut changer. Donc oui, il y a cette partie-là, mais il y a pas que ça. Enfin, il y a tout le reste qui. On parle beaucoup du bien-être, d'essayer que les gens aillent mieux, que ce soit au travail, à l'école, dans leur vie perso. On parle aussi relaxation, on parle méditation, bien-être, sophro, et bah voilà, tout ça en fait partie de la santé mentale. Mmh. Donc si on peut mettre le paquet là-dessus pour que les gens puissent aller mieux et pas arriver jusqu'à être dépressif ou quoi que ce soit, bah ouais, il faut, il faut quoi. Ouais. Donc...
J'ai juste une question par rapport à maintenant. Est-ce que par rapport à avant, il y avait moins de pathologies dépressives en fait ? Est-ce que l'évolution ?
Bah, je pense qu'il y a aussi le fait que maintenant on les diagnostique mieux, que les gens osent en parler un peu plus. Ça devient un petit peu moins tabou, je pense quand même, ces sujets-là. Après, les chiffres, ça je sais pas, j'en ai pas trop d'idées, mais ce qu'on... Il y en a, je pense, toujours eu, mais c'était peut-être caché, camouflé, que maintenant, comme on travaille, le CMP il travaille aussi, et pas que le CMP, mais tous les acteurs, on travaille aussi avec les lycées, on travaille avec... des assistantes sociales aussi, on est en lien avec... Enfin voilà, tout le tissu, les gens sont de plus en plus formés aussi, même pas forcément que sur l'hôpital, mais dans d'autres secteurs d'activité. Et du coup, je pense que les gens,
On fait plus attention à la santé
plus
mentale.
Plus attention, ouais.
Donc du coup, diriez-vous qu'aujourd'hui, il y a plus de... On découvre plus de problèmes dans le côté santé mentale que les gens ont plus de problèmes, on va dire, le fait qu'on soigne beaucoup et on discute beaucoup et que les gens n'ont... c'est pas tabou, en fait. Diriez-vous qu'aujourd'hui, on soigne plus les gens qui sont malades de ce côté.
J'espère. Je pense qu'il y en a une partie qui restait avant un peu mis de côté et qui était mal. J'espère en tout cas que le fait qu'on puisse même ici en parler, ça veut dire que ça se démocratise un peu et que voilà, tout le monde peut un jour être touché dans sa vie par un moins bien. Ça peut arriver à tout le monde, même à moi, malheureusement. Et l'idée, c'est de que chacun sache qu'il y a des possibilités de se faire aider un maximum. Après, la vie de tous les jours, maintenant, elle n'est pas facile. Hein. La société nous renvoie aussi, il faut être bon partout, il faut être efficace, il faut être productif. Et ça, des fois, c'est tellement... difficile à tenir que on peut aussi générer de la souffrance à cet endroit-là, mais
Oui. C'est vrai que par exemple la pathologie du burn-out, c'est quelque chose dont on parlait absolument pas il y a 10-15 ans de ça quoi. C'est apparu, enfin on a commencé à en parler, ça existait sans doute déjà avant,
mais par contre toujours eu, mais c'est vrai que maintenant ça apporte un nom, ça a été...
il y avait pas de monde,
C'est plus ou moins reconnu comme une maladie professionnelle
Ça a évolué. Donc, la prise en charge aussi. C'est vrai que maintenant, y a des gens qui viennent pour parce que c'est difficile au travail. On en voit. Après, est-ce que c'est de plus en plus ? Je n'ai pas assez de recul et je ne fais pas de stats. Je pense que aussi autour des jeunes, hein, le mal-être, le Covid, l'isolement, ça a été hyper compliqué pour certains. Il y en a qui ont eu vachement de mal de retourner à l'école et qui ne sont toujours pas retournés. Enfin,
ça a été une vraie rupture en fait chez eux avec leurs habitudes.
C'est vrai que c'est une période particulière, l'adolescence qui est difficile, où ils se cherchent tout ça. Et je pense que des fois, certains ont été mis isolés, un peu cocon, tout va bien, puis d'y retourner, c'est très dur. Et il y en a qui ont réussi, puis d'autres qui sont restés sur le carreau. C'est assez vaste. Toutes les populations à tout âge peuvent être touchées. Malheureusement.
Alors, tu fais pas de stats, mais est-ce que les CMP, en termes de, on va dire, de capacité d'accueil, de suivi des personnes qui viendraient vous voir, vous avez une certaine limite, un moment où vous êtes
Non, on n'a pas de limite. Après, nos limites, ça va être nos créneaux, où on peut voir les gens, mais après, il n'y a pas de...
Et vous pouvez pas allonger les plannings.
Voilà, c'est ça. Donc, ça va allonger le rendez-vous, mais la date du rendez-vous, mais non, on n'a pas, passé 150 personnes et on arrête. Non, on continue toujours à accueillir. C'est la mission principale, accueillir gratuitement... toute personne contre la
ça, on l'a pas dit que c'était gratuit le CMP.
C'est complètement gratuit. On peut.
Ok.
Il y a aucun frais, même pas besoin de la carte vitale.
Il y a même pas besoin de la carte vitale. Ok.
Et je voulais savoir si au CMP vous proposiez des travails de groupe ou c'est vraiment la personne toute seule que vous recevez.
Actuellement, les CMP peuvent faire du groupe. Après, sur les nôtres, on n'en fait pas forcément. Mais quand il y a... Ça n'empêche qu'on a des services qui sont apparentés, qui font partie de notre pôle santé mentale. Mmh. Et si on sent qu'il y a des besoins pour travailler certaines choses avec du groupe, on peut les orienter vers les structures adaptées.
Moi, j'ai encore d'autres questions à poser, j'y vais.
T'es lancé, c'est bon.
C'est bon, je suis lancé, on me laisse. Allez, tac là, c'est parti. Est-ce que la Mayenne, c'est aussi une question un peu en rapport avec la capacité d'accueil, sachant que la Mayenne, c'est un département qui est considéré comme un désert médical. On manque de médecins généralistes, on manque d'ophtalmo, on manque de dentistes. Dans le domaine de la santé mentale, est-ce que c'est une réalité aussi que on manquerait? Alors on sort peut-être un peu du cadre CMP là pour le coup, je sais pas si tu as des infos là-dessus, mais est-ce que on manque de professionnels de santé spécialisés sur la santé mentale?
Si, on est malheureusement comme tous les domaines de la santé, on manque de psychiatres. Quand je dis on accueille tout le monde, c'est sûr qu'on accueille tout le monde, mais c'est vrai que la réponse, il y a quelques années, elle aurait été un peu différente. Enfin, la réponse de soins aurait été différente, c'est-à-dire que plus rapidement les gens auraient vu un psychiatre, auraient pu avoir des instaurations de traitement ou des diagnostics. Là, on accueille, donc on accompagne, nous, infirmiers, psychologues. Après, le délai de rendez-vous avec le psychiatre étant très long, on compose soit avec les médecins traitants, quand les gens ont la chance d'avoir un médecin traitant.
Oui, aussi.
Voilà. Et quand les délais sont vraiment très longs, c'est là où nous, on oriente et qu'il y a besoin d'un avis rapidement passé vers les urgences. Mais c'est vrai que la Mayenne n'est pas bien dotée. On a eu pas mal de psychiatres à partir, là, ce que essaye de faire l'hôpital, c'est de se mettre en lien avec le CHU d'Angers, qui nous envoie des psychiatres.
D'accord.
Pour faire un peu tampon et pouvoir éponger quand même les besoins, surtout en intra-hospitalier, parce que y a besoin de plus de médecins, parce que des gens en continu qui ont besoin de soins plus assidus. Donc ils ont travaillé ce partenariat-là qui tient pour l'instant, donc on espère que ça va continuer et que des psychiatres vont arriver, s'installer. Ça serait chouette, ça améliorerait forcément les soins.
Et alors les psychiatres qui sont partis, c'est parce qu'ils ont changé de territoire ou ils sont partis à la retraite? C'est peut-être un peu des deux. Je suis toujours sur ma lancée.
Oui, parce que tu m'as piqué ma question.
Ah, pardon.
Mais non.
Eh ben oui, et ben voilà. J'ai pas demandé l'autorisation, désolé.
Allez, si t'es parti, vas-y. Ah, je te sens là.
Non, vas-y.
Non, je te sens trop bien. Non, moi, je voulais savoir si t'avais, justement, un message à faire passer aux auditeurs ou des informations aussi sur des actions mises en place ou...
Moi, ce que je dirais, c'est que faut que chacun fasse attention, autant à sa santé physique qu'à sa santé mentale, et que savoir s'écouter ou écouter son entourage si on n'arrive pas à s'écouter soi, et à prendre du temps pour soi, pour aller bien et pour pouvoir aussi après donner, continuer à avancer, à travailler. Ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais c'est important de prendre soin de soi pour aller bien et dans la durée, quoi. Enfin...
Du coup, ça m'a fait retrouver une question. Justement, il y a des, on est dans un milieu où on voit qu'un proche a besoin effectivement d'aide psychologique, d'être accompagné. Est-ce que il y a moyen, alors j'allais utiliser le terme de signalement, mais je l'aime pas trop, mais en tout cas, est-ce qu'il y a moyen de venir au CMP et puis de dire j'ai une personne qui est pas très bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer comme ça, ou c'est nécessairement la personne qui va pas bien du coup qui doit absolument elle se déplacer en CMP?
Elle est importante, votre question, mais elle est au centre de notre pratique, parce que en psychiatrie, en tout cas, la majorité des gens sont dans le déni de soins, dans le déni des troubles, donc forcément pas besoin de soins. Donc il y a cette partie-là, en effet, où les proches peuvent s'inquiéter, voir des choses qui ne vont pas. La personne, ne souhaite pas du tout de soins. Alors là, on est très, très, très embêté. Parce que si elle se met pas en danger ou qu'elle risque pas de mettre en danger les autres, il va falloir composer avec son refus. Donc c'est vrai que ça nous arrive des fois de recevoir des familles de proches qui sont très inquiets parce que ils vont pas bien, et donc ils parlent de leur souffrance, mais c'est aussi pour essayer de trouver des astuces pour les ramener aux soins. Donc ça nous arrive. Après, c'est de la j'ai envie de dire la haute couture, quand on brode, on voit ce qui est possible de déployer comme dispositif ou pas.
Okay.
Mais on fait vraiment avec le déni des patients, et des fois
c'est quelque
important.
Chose de réel, quoi.
Ça fait vraiment partie de la pathologie, donc voilà. Après, tout ce qui est autour de la santé mentale, donc plutôt sur le mal-être et tout ça, là les gens viennent plus facilement d'eux-mêmes. Ou des fois sur conseil, ils n'ont pas forcément trop envie, ils ont un peu peur, un psychologue, oh lolo, qu'est-ce qu'il va me vouloir? Et puis au final, en expliquant des fois ce qui leur arrive, ils peuvent s'en saisir. Mais voilà, il y a vraiment ces deux approches-là, quoi.
D'accord.
J'ai une question. Quand on a une personne qui est vraiment malade, on va dire vraiment qui est... Quand je dis malade, mais psy, vraiment, vraiment, qui est en rupture de soins, est-ce que on peut pas, la famille peut prendre un tiers l'hospitaliser d'office, hein?
Oui, ça c'est en psychiatrie, il y a plusieurs modes d'hospitalisation. En hospitalisation libre, comme on peut aller dans un service de néphrologie, pneumologie, où c'est soi-même, on voit qu'il y a un problème, on y va. Après, en psychiatrie, il y a aussi deux modes d'hospitalisation, parce que comme je vous le disais, le déni peut être très présent, et les troubles tellement importants que la personne ne se rend pas compte. Donc en effet, on peut avoir recours à l'hospitalisation sous contrainte. Donc après, elle a des procédures très, très établies, il faut des certificats médicaux circonstanciés, avec les modalités, pour qui, pourquoi. Donc c'est très, très protocolisé, et c'est vrai que la famille peut... dans un des modes d'hospice, faire venir attester qu'ils sont inquiets pour elle, qu'ils connaissent la personne, et que oui, en effet, elle peut relever de soins. Après, ça reste la décision médicale, et pas la décision du proche. C'est vraiment les médecins qui font les différents certificats qui attestent qu'il y a besoin de soins.
Eh bien, On est bon parce que je regarde le timing aussi. On a eu un rappel à l'ordre. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais bien que tu nous rappelles les petits conseils avec ta douce voix. Il faut qu'on prenne soin de nous. C'est ça, prenez soin de vous. Ouais. Écoutez-vous.
C'est ça. Ça.
Voilà, j'aime bien. Si vous pouvez nous le répéter. Écoutez-vous.
Bah, prenez soin de vous.
On va faire un petit... On note.
Écoutez-vous. Voilà. Écoutez votre corps. Si, voilà, écoutez vos proches. Et, bah ouais... Faites attention.
Et puis, ouais. On peut peut-être rapidement rappeler les coordonnées du CMP et où est-ce que où est-ce que ça se situe ?
Nous, on est du côté de la caserne des pompiers, rue du Bois de l'Huisserie.
D'accord.
Et il y a donc celui de la Valest au niveau des Pommerais, du côté de la maison de quartier. Voilà, c'est les prints. Après, les numéros, je ne les connais pas par cœur. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. En faisant le numéro de l'hôpital, de toute manière, si on demande CMP, ils rebasculent.
Okay.
Vu qu'on est lié à eux, il n'y a pas de...
Et puis, on rappelle aussi que si vous habitez le sud Mayenne ou le nord Mayenne, il y a un CMP à Château-Gontier.
Il ne faut pas hésiter.
Mayenne.
Il y a toujours du monde. Juste, on est ouvert du lundi au vendredi, 9h-17h à peu près. Voilà, donc... Il y a tout le temps du monde, sauf malheureusement le week-end et la nuit.
Est-ce qu'on peut se présenter sans rendez-vous ou faut forcément avoir un rendez-vous en amont ? Est-ce qu'on peut venir comme ça ?
Alors l'idée pour avoir quelqu'un de dispo, c'est mieux d'avoir un rendez-vous pris en amont. Après, on peut se présenter comme ça, on prend les infos, mais on reposera un rendez-vous à la personne parce qu'on n'a pas forcément de créneau malheureusement sur le moment pour recevoir la personne.
Et juste... On est d'abord reçu par l'infirmière.
Ouais. Vu le nombre, c'est surtout le premier rendez-vous, la première évaluation sera faite par une infirmière. En fait, après, elle réoriente s'il y a besoin de voir un médecin en urgence, tout ça, voilà. S'il y a besoin d'un suivi psycho, on met sur liste d'attente et puis après, ça se fait comme ça.
Merci beaucoup. Eh bien, une autre petite pause musicale. Alors, c'est parti avec Kokomo. Et le titre du morceau, c'est Your Kiss. Time.
quoi déjà?
Causerie on air.
Allez, on continue. Ben, c'est parti, on va rire. Donc, voilà, je voulais raconter une anecdote. C'est sûrement arrivé à d'autres d'entre nous. Donc, je cherche, voilà, je voulais un encens, un brûle, voilà, je bafouille, Valentin coupera. On l'a refait. Un porte-encens, voilà, je recherchais un porte-encens. Et puis, hein, que je voulais pouvoir balayer comme ça pour parfumer ma maison au lieu d'être avec le bâtonnet. Donc, je me dis, tiens, je vais prendre un porte-encens religieux, comme ça. Donc, gogol, talalap, et puis image. Et j'en vois un, ah, trop beau, magnifique, pas cher, livraison gratuite, en stock. J'ai dit, je clique, je vais sur un site de e-commerce. J'atterris sur un site de e-commerce, et donc déjà, le magnifique petit porte-encens, je lis comme ça, comme c'est noté. Hein. Encensoir, croix culte, encensoir, porte-encens, brûle-poêle à encens religieux et brûleur encens grec-russe, brûleur de chauffage d'arôme Christian alliage, accessoire, bureau la croix. Ah là, voilà. C'est pour ça que je veux que tout le monde participe. Et là, j'étais là-bas. What? J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Alors je cherche. Je savais pas si je vais rire ou pleurer encore. Et puis je continue. Alors j'ai dit, bon, à propos de cet article, on va voir qu'est-ce qu'ils mettent. Parce qu'il est vraiment joli, hein. En fait, faut juste le regarder pour lire. Alors après, je lis donc porte-encens de bureau. Eh bien, il est plus religieux, dis donc, pousse pas là. Porte-encens de bureau. Le brûleur d'encens est léger et compact. Je suis à boire. Je cherche. Là, je suis sur internet, donc je regarde sur la deuxième page. 12 par 12 par 36 kilos 3. Alors, ouais, du léger.
C'est léger, ça.
Du léger et compact à 36 kilos 3. Donc voilà, pour le transporter, et ils mettent un design créatif portable à transporter, à ranger. Musculation. J'ai bon, je continue. Brûleur d'encens religieux, ah, ça y est, redevient religieux. Donc, adapté pour servir de décoration. Normalement, ça ne sert pas qu'à ça, mais bon. Nécessaire pour votre culte et vos activités religieuses. Bon. Alors après, plateau de cône d'encens de yoga. Bon. Et on m'a dit que par rapport à ce plateau d'encens de yoga, le motif religieux le rend le plus impressionnant. C'est vachement utile quand on fait du yoga. Ah bah pas
oui. Un... porte focus sur
le yoga. Ouais, exactement. On revient adapté à la décoration de bureau à la maison et répète et au bureau, une œuvre d'art nécessaire et à vos amis. Qui aime l'encensoir. Améliorez l'apparence de la pièce, libérez tranquillement l'arôme et rendez votre maison plus impressionnante. Eh bien, j'ai tombé.
C'est quoi cette description de ouf?
Ah non, mais c'est ça, j'ai halluciné. Au début, à la fin, j'ai fini par rire. J'ai dit, mais ça va s'arrêter quand? Description du produit. Alors là, on passe, attention, elle est énorme. Le forfait comprend. Il va faire opérateur téléphonique, routeur, je sais même plus. Avec 36 kilos de... Et donc voilà, quand on veut connaître le matériau, hein, parce qu'on veut savoir en quoi c'est fait quand même. Bon ben, c'est un alliage petit décor de bureau. Et donc en généralité, mettre plateau, alors c'est un plateau décoratif, c'est plus important son, c'est un plateau qui est bien fabriqué avec un matériau durable et délicat. Améliorer la qualité de vie, décoration de table pour la maison, sélection parfaite pour la famille, les amis, les collègues. Ah, on choisit d'en rire, on est d'accord.
Ah, oui. Largement, largement.
Mais je voulais trop la partager parce que...
Mais est-ce que tu l'as acheté du coup ce produit?
Eh ben, au final, j'ai bugué, j'ai pas acheté. Non, c'était trop là. C'était trop pour moi.
Mais en vrai, vu la description, ça se trouve, t'aurais commandé un porte-encens, t'aurais reçu un pommeau de douche, quoi.
À 36 kilos.
À 36 kilos, ah oui.
Non, 36 kilos, faut pas le faire.
Bon, Et bien sur ce, Taous, c'est à toi pour ton petit...
Cuisine.
Alors, j'avais envie de parler d'un légume... Je poserai mes petites questions après. Je voulais parler du céleri branche. Qui est, à mon avis, pas très aimé des enfants.
Je pense que c'est surtout l'odeur qui peut des fois dire « Ah non, j'en veux pas
ouais. !» Moi, je dirais que c'est le mode de cuisson, en fait, qui peut...
Selon comment elle est cuisinée.
Oui, en purée, je trouve que c'est assez doux, ça passe bien.
Ou dans la soupe aussi, on l'a pas en bouche, filandreux. Mais il y a beaucoup d'adultes aussi qui l'aiment pas. Les enfants, mais les adultes aussi.
Il y en a autour de la table là qui n'aiment pas le céleri ? On vous repère ? Ah bah voilà.
Je le cuisine, mais...
J'ai fait mon coming out avec le céleri, maintenant j'aime bien.
Moi j'ai envie de dire que des fois, enfant, on n'aime pas un goût. Et en fait, avec le temps, les goûts changent et on apprécie en fait après le légume.
Tout à fait. Et puis des fois, c'est aussi important de proposer plusieurs fois. Un non ne veut pas dire un non pour toujours.
Oui.
Souvent, on dit qu'il faut proposer au moins 10 fois.
Au moins 10.
Avant de pouvoir, pour un enfant, avant de pouvoir dire s'il l'aime ou pas.
Alors, on parle du céleri branche. Et il est en fait bourré de bienfaits. Vous savez un petit peu.
Les bienfaits du céleri branche. Voilà. Ah non, pas du tout.
Il y a des vitamines, des fibres.
Les fibres.
Vitamine C, c'est un légume.
Il y en a un petit peu, mais il y a beaucoup d'autres vitamines.
Ah, vas-y, je vais dire de la vitamine B du coup.
Mais voilà, il est bon pour le corps et pour la peau. Il est notamment bon pour les personnes diabétiques. Je vais proposer ma petite recette d'un jus à base de céleri. Mais avant ça, j'avais deux, trois petites questions. Il est riche en fibres, fer ou vitamine C ?
Fibre. C'est bien pour faire caca, ça. Pardon.
Bah oui, non fibre. Ouais. Fibre, oui.
Mais c'est cru hein, ce que
ça
je dis.
Aide.
Ça aide
énormément. Okay. C'est de la prévention contre les fécalomes.
On sent les infirmières.
Et sa conservation au frigo ? Dans un papier film, dans un sac en papier ou dans un linge humide ?
Ah.
J'aurais dit papier journal, mais c'est pas dedans. Linge humide ? Non.
On peut répéter ?
Sac en papier. Oui.
Attends, moi, sac en papier, j'aurais dit, moi, ouais, aussi.
Non, moi, j'ai entendu linge humide.
Il y a eu linge humide aussi qui a été dit, ouais. Mais bah. Moi, je dis sac en papier.
Et c'est linge humide.
Ah, c'est linge humide, ok, d'accord.
Ah,
oui.
Ah, bah, c'est bon à savoir.
Dieu de tense.
Et une petite dernière, quand vous achetez votre céleri en branche, vous vous basez sur quoi pour l'acheter ? S'il est très épais ? Si ses branches sont molles ou s'il est brillant et ses tiges bien cassantes.
Moi j'aurais dit la dernière, la brillant et bien cassant.
Bravo.
Ah yes. Ouais.
Voilà.
Bah, on est tous prêts à acheter du céleri.
Allez hop.
Faire une petite cure.
Et bah ça tombe bien parce qu'en plus là tu nous proposes une recette. Donc après, go grand frais, acheter du céleri. Ou pardon, j'ai cité une marque.
Oui,
go supermarché, acheter du céleri.
Non, go le petit producteur d'à côté. Acheter du céleri.
Go, le petit producteur d'à côté, acheter du céleri. Ah oui, bah pardon, excusez-moi. Go, au marché.
Au marché.
Voilà, au marché.
Alors, dès que vous avez acheté votre petit céleri, alors, après l'avoir lavé et tout, on va le mettre en morceaux dans le blender et on va le mixer au maximum jusqu'à ce qu'il soit rendu en purée. Et une fois qu'il est comme ça, on va le passer à la passoire très fine ou alors dans un linge, un torchon, pour bien le filtrer, pour récupérer le maximum de jus. Et
cru.
Comment ?
Il sent cru. Faut pas le faire cuire.
Non, tu
D'accord.
le mixes.
Ah, ok.
Tu fais que le mix, passer au mixeur.
Ok.
Voilà. Et quand il est, voilà, quand tu as bien récupéré tout le jus. Ouais, tu peux le boire et faire une petite cure de 20 jours à un mois. Et ouais. Sinon, tu peux le conserver au congélateur.
Pourquoi tu nous conseilles de le boire, ton petit jus ?
Pour faire une cure détox. Une petite cure.
Et oui.
Non, c'est une cure, comme ça. Sans être détox, de faire une cure pour ton corps.
Et du coup, c'est quelle quantité qu'il faut ingérer pendant ces 20 jours? C'est chaque jour une petite dose?
Alors, tous les jours à jeun, on va dire une demi-heure avant de prendre ton petit déjeuner. Et on va dire, environ 500 millilitres. Pas centilitres, hein. Environ 500 millilitres.
Une pinte de jus de céleri.
500 millilitres, c'est pas 50, pas 50 centilitres.
Eh bah, ben 500 millilitres, c'est 50 centilitres.
Donc 5 centilitres.
À boire tout au long de la journée.
Ok, allez hop.
Plus il y en a, mieux c'est.
Partage avec tes voisins.
Mais c'est pour ça en plus j'ai dit qu'on peut le congeler. C'est parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais si vous le goûtez, vous viendrez nous redire si vous avez aimé, si vous avez fait des bienfaits.
Grave. On veut une photo avant la cure, après la cure.
J'aimerais bien voir les effets sur la peau. À mon âge.
Ouais. Ah, entre le marc de café et le céleri, là, on est
c'est
bon,
clair.
Là.
Ah oui, mais il nous manquait le visage, tiens. Les voitures et puis les cornichons. Ah, bon, ouin. Bah, ouin. C'est déjà la fin. Hein.
Bah, oui.
Ah. Eh ben, voilà, on va clôturer cette émission, mais avant, on va écouter le morceau d'Annick. Et Annick, elle a fait exprès de se mettre loin du micro. Donc, le morceau « Des milliers de je t'aime » de Slimane. À dans un mois. Encore merci.
Et merci, c'est vrai.
Merci. Voilà, encore merci.
Passage,
merci,
quand même.
Merci à tous.
Merci à tous.
Encore.
Merci.
Et bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Plus besoin de chercher, plus besoin je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers. Je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. De la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime.